la leçon. C'est ma promotion. À vos poignées de main. Le flow, je l'ai pris, je l'ai poigné de main. Puis je vous vois déjà venir de loin. Une fille qui rappe, c'est dans le dope. Le reste du temps, c'est qu'on coupe. MC qui dit que ton dope. Les lunes qui sortaient comme wow. Toujours la même salade. Moins de madame, à moins que ça l'aille. Le même goût, ben ça lasse, fait salaire. À se faire crier, t'es salope. Pour même pas le même salaire. Donnez-moi du sativa. Où sont les femmes, c'est fatigant.
Galère présente
les Haragas de Marseille.
Patatou, patatou, patatou. Bienvenue dans l'émission Haragas en compagnie de Kamar et Arslan. Haragas, patatou,
patatou,
patatou, patatou,
patatou, rien.
روفي دو بريس
بلت ميكي والخرطي
رقم الهاتف التليفوني 04-91-08-10 04-91-08-28-10 et ça se passe tous les jeudis de 16h à 18h. Salam alaykoum khoya Arslan.
Alaykoum salam khoya Kamar. Wach rak ma saha?
Très bien la base. Alors comment t'as passé ta semaine?
Ça va comme taha wnouda.
Kima l'Algérie?
Tout à fait.
Bonjour, émission Haraga dirigée par Kamar Idir, ma chronique revue de presse halal sur des sujets haram.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga na fi da'at galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie, elle fait appel à la rue qui la réinterpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
C'est une revue de presse halal sur des sujets haram. Wallah l'azim.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haragas de Marseille. Bakhir l'Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18h, M'sa'a Rabia Hatta Sa'a Sadi Sa'a. Azul Flaoun, salam alaikum, bonjour tout le monde, on est le jeudi 27 février 2025 et l'équipe des Haragas sont heureux d'être parmi vous. On va commencer notre mission, comme chaque jeudi bien sûr, en rendant hommage à Rachid Dar.
انتظروا الأيام
كل ليالي انتظروا ليالي كل ليالي انتظري شوام كل صباح اطرحوا السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف نعمل مش معمول انسوت ساتني كيف نعمل مش معمول مشات وخلتني من انا هل انا قبيح هل انا مختلف هل انا عربي هل انا اوروبي هل انا اندي هل انا اسود كيش نعمل واش معمول يوني مشت وخلتني كيش نعمل واش معمول قلبي دايما دايما صافي لكن واجب الافراغ الازبل في هذا اليوم الصعب لم انا مثله في حياتي في حياتي هذا اليوم اليوم اضراب هذا اليوم اليوم اضراب كيفاش نعمل واش معمول الدنيا مشات وخلتني نسافر النجوم نسافر مع حبيبي كل ايام كل ايام وهو يوم أسود في حياتي بعدودي والأحرات كيش نعمل واش معمول الدنيا مشت خلتني كيش نعمل واش معمول عيوني مشت للسما خلتني
À peine 18h30, ce lundi 24 février, est la place Bargement se drape de la bannière jaune et bleue. Craché par un ampli installé devant l'hôtel de ville de Marseille, le son d'une sirène d'alerte à la bombe couvre celui des cloches de Saint-Victor. Ils étaient là pour dénoncer les 3 ans de guerre en Ukraine. Le 24 février 2022, les colons de chars russes fondés sur Kiev en multipliant les massacres sur leur passage. Alors que la gare entre dans sa 4e année, un rassemblement a été organisé devant l'hôtel de ville appelant les Européens à ne pas abandonner le peuple ukrainien. Un reportage réalisé par Kamaridir pour Radio Galère. Juste après ces entretiens réalisés devant l'hôtel de ville de Marseille, l'analyse de Bernard Genet sur l'Ukraine.
Pour les Ukrainiens, c'est la journée de tragédie, de injustice, de génocide, je peux dire aussi.
Ça fait combien d'années que ça dure quand même ?
Bah, ça a commencé en 2014, comme vous avez vu sur mon panneau. Ça a commencé en 2014 pour annexion de Crimée par la Russie et aussi pour arrestation et discrimination des Tatars du Crimée. Voilà, et après ça a continué par guerre hybride à l'ouest de l'Ukraine, dans les régions de Donetsk et Lugansk. Et après, en 2022, parce qu'il n'y avait pas de réponse dure de tout le monde, la Russie pouvait commencer la guerre à grande échelle.
Alors, que pensez-vous de la présidence de Trump et sur le comportement tenu envers l'Ukraine ?
À mon avis, totalement subjectif, ce que j'ai vu, c'est que Trump essaye d'être grand businessman. Et du coup, il joue le jeu de business. Mais on ne peut pas jouer de jeu business avec massacre. Et
on ne peut pas jouer du business quand il s'agit des vies des enfants et des personnes victimes. On peut...
Justement, il y a combien de morts à ce jour ?
Actuellement, il y a des données très différentes. On peut ne pas parler les chiffres exacts. Le président ukrainien donne chiffres un peu en dessous ce qu'on en pense par rapport aux chiffres d'autres qui est donné par et l'Europe et en Amérique. Mais on ne peut pas parler des chiffres exacts. Mais il s'agit des centaines mille de personnes mortes. Il s'agit.
Vous parlez du président. Est-ce qu'il a toujours la cote ? Est-ce qu'il est toujours aimé en Ukraine après tous ces morts ? Après tout, pour le moment, il n'a rien réglé. Pire en pire. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine et vivent à l'étranger.
Évidemment, le peuple ukrainien, il n'en peut plus de cette guerre. Il veut que ça s'arrête avec les morts. Maintenant, en Ukraine, vous ne pouvez pas trouver une personne qui n'a pas perdu quelqu'un de proche. Maintenant, c'est devenu chacun dans son entourage. Il y a quelqu'un qui est mort de très proche ou un peu moins proche, mais soit quelqu'un de famille, soit un ami. Et évidemment, le peuple ukrainien, il veut que ça s'arrête. Il y a certains, évidemment, qui commençaient avoir la haine, on peut dire, un peu contre le président Zelensky. Mais avec ce qui se passe avec le Trump, maintenant, on est encore devenu plus unis. Actuellement, ce jour, on est devenu encore plus unis pour le président ukrainien et on le supporte encore aujourd'hui plus que dans tous les cas la semaine dernière.
Vous avez entendu les propos tenus par Trump envers le président de l'Ukraine en le traitant de dictateur.
Oui. Je trouve ça complètement absurde. Mais pour moi, Trump, ça a été toujours une showman. C'était jamais une personne politique qui mérite d'être bien... Pour moi, c'est un peu, je dirais peut-être grand mot, mais une honte d'avoir un président qui peut se permettre de dire des choses comme ça. C'est un peu une honte par rapport les gens, même partout dans le monde, qui, pas seulement en parlant de président ukrainien, mais tous les propos qu'il peut se permettre de dire par rapport les femmes, etc. Moi, je trouve que c'est un peu honteux pour un président, pour une...
Je voudrais ajouter aussi des choses. On sait que président Macron est venu aux États-Unis ces jours-là.
Aujourd'hui.
Oui, pour donner un bon sens à président Trump. Donc on espère que lui, il peut... donner un coup de bon sens à la personne pour expliquer qu'est-ce que va être avec l'Europe si l'Ukraine tombe. Donc on cherche la paix durable et des choix politiques à faire. Pas que...
Et des garanties pour les années à venir. L'Ukraine veut avoir des vraies garanties et c'est seulement... Ça peut être provoqué. C'est pas les papiers qui vont être signés, comme mon ami vient de dire. C'est pas les papiers qui vont définir ça. Si on n'a pas des garanties qui marchent, on n'aura jamais une paix en Ukraine. Parce que, pour dire, sur toute l'histoire, longue histoire d'Ukraine, on n'était jamais en paix à côté de la Russie. Et on ne peut pas, malheureusement, changer notre voisin terroriste et on est obligé de subir ça. Donc ce qu'on demande, c'est les garanties de la paix et de la démocratie, parce que pour moi, si l'Ukraine tombe, c'est la démocratie qui s'effondre en Europe. Et ce que j'ai écrit aussi là, l'Ukraine saigne pour que la paix règne. Pour moi, c'est ça actuellement.
Donc, vous attendez à quelque chose de Macron, peut-être qu'il va régler, peut-être...
On espère, dans tous les cas, c'est vrai que maintenant, avec 3 ans de guerre à grande échelle, Heroyam Slava, excusez-moi.
Il est en train de dire quoi ?
Gloire à l'Ukraine.
Ok.
Bonne adosser. Bonne adosser. Bonne adosser. Smerch vorogam. Smerch vorogam. Smerch vorogam.
Ça vous donne quoi quand vous entendez l'hymne national ukrainien à l'étranger, même pas
oui.
dans votre pays?
Ben, vous me demandez, j'ai déjà larmes aux yeux. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait beaucoup de douleur actuellement. Avant, quand on chantait l'hymne à l'école, on a fait une petite... c'était devenu en fait une comment dire
tradition.
Oui, chaque semaine commençait la semaine par chant du hymne. Et en ce moment, c'était un moment heureux pour nous. On est venu, on mettait même les mains. Personne nous a demandé, on mettait les mains ici parce que pour nous, c'était quelque chose qui nous donnait chaud au cœur, mais plutôt unité, mais pas tragiquement comme maintenant. Et maintenant, ça nous donne chaud au cœur, mais aussi ça nous donne mal au cœur.
Mal, pourquoi ? Parce que...
On le chante, on sait pourquoi on le chante. On le chante pour arrêter la guerre, pour arrêter les morts, pour arrêter le génocide en Ukraine. On le chante pour, en espérant qu'un jour, l'Ukraine va devenir indépendante et qu'elle sera en paix, libre, et pourra vivre librement comme l'Europe actuellement. On l'espère.
On a vu des scènes à la télé, des scènes terribles sur l'Ukraine, sur les soldats. Qui n'avaient pas de bras, qui sont retournés faire la guerre, que c'est le courage ukrainien ou c'est l'Ukrainien qui est comme ça.
En fait, c'est ça qui nous change énormément de la Russie. Et c'est pour ça qu'on nous dit c'est la même chose, l'Ukraine, russe et ukrainien. Ben, c'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord et ça nous énerve énormément. Mais c'est ça qu'on n'est pas les mêmes. Et nous, on sait pourquoi cette personne qui est déjà handicapée, pourquoi il retourne. Parce qu'il veut défendre le peuple pour son enfant, pour l'avenir de son enfant peut-être, pour que lui-même il pourra marcher librement et pas vivre soit sur les bombes tout le temps, soit sur les... suppression russe. Quand tu n'as pas le droit à parole, parce que nous, on est un peuple qui ne peut pas vivre. C'est pour ça, en fait, 2014-2013, ça a commencé en 2013, quand tout le monde est venu sur Maïdan, ça a subi plus de 100 morts. Parce qu'on n'a pas un peuple, on n'est pas un peuple qui va subir des dictatures de présidents, de terroristes Poutine.
Pourtant, vous êtes des frères. Pourquoi cette haine entre vous ? Ça dure depuis quand de...
Nous ne sommes pas des frères. Sur toute longue histoire ukrainienne, c'est ce que je vous dis, toute longue histoire d'Ukraine, Russie, tout le temps.
Je voudrais ajouter que c'est la Russie qui est... Qui dit qu'on est les frères.
C'est une mythe créée par la Russie, mais jamais
c'est
on
juste
était.
Une propagande.
Et si vous
parlez la même langue.
Nous on parle ukrainien. Ça vous
parfois connaît la langue russe parce que à l'époque de URSS et aussi de l'Empire russe, c'était la langue d'empire et c'était imposé
de colonial, vous voulez.
Colonial, donc c'était obligatoire de connaître la langue russe. Donc c'est pour ça parfois les gens connaissent cette langue.
À partir du 17e siècle, 18e, 19e déjà, la Russie, elle mettait les lois qui interdisaient la langue ukrainienne même en parlant à la maison. On parlait même pas à l'école ou quoi. On était sur l'Empire russe depuis longtemps. La langue, elle était détruite. Tous nos poètes, écrivains, ils étaient tués juste pour ces mots. Ils ont écrit rien de mal. Ils écrivaient pour l'amour pour l'Ukraine, écrit par ces mots, par ces poèmes. Ils étaient tués juste pour ça. Et ça, au XXe siècle, il s'est passé énormément. Pendant les années 60 et années 1920 aussi, il y avait énormément d'écrivains tués par l'armée russe.
Justement, j'allais vous parler des écrivains. Les écrivains les plus lus en Ukraine et les plus, comment dirais-je, anti-russes.
pour moi, le Stous, c'est une histoire assez d'ailleurs connue parce qu'actuellement, Medvedchuk, qui est donc fait partie de bon entourage de Poutine, ben, c'est lui exactement qui l'a enfermé et tué notre écrivain Stous. Pareil, il y a comme Khvelovey, lui, il s'est tué lui-même par balle dans la tête. Il s'est suicidé parce qu'il était sur pression tout le temps sur la suppression russe. Sur la pression russe, exactement. Il y a d'autres comme ça qu'on peut citer parce que même certains, ils savaient qu'ils sont entourés partout par les... KGB.
Des agents russes, KGB et tout.
Et certains,
Il était surveillé.
L'Ukraine, ça vous manque ?
Oui, évidemment, beaucoup.
Vous êtes mariée, vous avez des enfants ?
Non,
je
ne me suis pas mariée. Je suis là pour mes études à partir de 2020. Je suis donc venue avant que la guerre commence. Mais je suis une histoire aussi qui est liée avec la France depuis mon enfance. C'est pour ça. Mais évidemment, l'Ukraine, il me manque beaucoup.
Vous faites quoi comme études ?
Études d'architecture.
Donc vous allez reconstruire l'Ukraine. Si demain, il y aura la paix et l'Ukraine gagnera, voilà. C'est votre pays, c'est normal.
Je l'espère, c'est une des rêves, on va dire.
Qu'est-ce que vous allez dire aux Marseillais qui nous écoutent ?
Soutenez l'Ukraine et surtout à ne pas croire à la propagande russe.
Oui, parce que soutenir l'Ukraine actuellement, c'est soutenir la démocratie, la liberté. Et laisser tomber l'Ukraine actuellement comme ça, il faut quand même se dire qu'actuellement, l'Ukraine, c'est une frontière entre une poutinisme et la liberté. Et si cette frontière tombe, l'Europe tombera.
Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage. Et...
Merci à beaucoup d'avoir écouté.
La sirène était sur mon pays. C'est comme ça mon pays vit au quotidien.
C'est la guerre. La guerre, qu'elle continue.
Comme ça vit mon Ukraine.
Pas uniquement en Ukraine.
Aujourd'hui, le 24 février 2025, la guerre à grande échelle, la guerre en Ukraine, entre dans sa quatrième année. La guerre d'horreur absolue. 1096 jours d'où la mort que sème notre voisin. Des bombardements, des massacres, des viols, des exécutions sommaires, des tortures inimaginables, des déportations forcées, des familles déchirées, des enfants orphelins, des corps mutilés, des vies brisées, des rêves anéantis. 3 ans de lutte, de résilience et de combat que mène mon pays, Ukraine. 3 ans. 3 ans de résistance ukrainienne que personne ne croyait au début de la guerre. Personne. Si. Les Ukrainiens. Les Ukrainiens y sont. Mon pays est toujours debout. Cette guerre atroce qui a commencé en 2014 et a explosé en 2022, c'est un cancer qui ronge le cœur d'Europe. Chaque famille ukrainienne, il y a quelqu'un sur le front. La ligne de front, c'est un enfer sur terre, où des jeunes hommes sont broyés quotidiennement dans une guerre d'une usure brutale. L'armée ukrainienne mène le combat dans un vrai calvaire. Et la joie des enfants, ça n'existe plus. Les enfants ukrainiens sont devenus adultes, beaucoup plus adultes que vous et moi. Les vies entières ont été rayées de la carte, transformées en cimetières, en béton et d'acier tordu. Les nuages génocidaires ne s'arrêteront pas aux frontières. Les cruautés que propage la Russie comme la peste menace l'Europe. Ils sont prêts à vous détruire parce que vous êtes l'autre, parce que vous avez votre histoire, votre culture, votre langue, parce que vous, tout simplement, vous êtes libre. Et pour cette liberté en Ukraine, en Europe, mon pays se bat. L'Europe, c'est 450 millions d'habitants. Les États-Unis, 330 millions d'habitants. Et l'Ukraine, que 44 millions d'habitants. Mais il se bat. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur ni le nazisme russe, ni le politique de Poutine. L'Ukraine veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. La paix juste et durable, avec la vraie sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe. Et merci à la France. Merci pour toute votre aide inestimable, votre accueil, votre aide humanitaire, vos Césars, vos miracles. L'Ukraine, comme la France, comme l'Europe, doit participer aux négociations. Restons unis, restons ensemble et continuons notre combat. Gloire à la France et slava Ukraine.
Rappelez-moi votre nom et profession.
Natalia Brognard.
Ouais.
Voilà, donc aide comptable.
Merci
France.
Beaucoup. Vous êtes ukrainienne.
Je suis ukrainienne, oui.
Merci.
Merci beaucoup.
Alors, d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pourquoi vous êtes là exactement? Je vois avec des... comment dirais-je? Comment on les appelle?
Des écussons. Je ne représente pas grand-chose. J'ai créé en revanche une association qui récupère les gilets pare-balles de la police municipale. Et plutôt que les détruire et polluer et dépenser de l'argent public, on les reconditionne et on les envoie en Ukraine pour protéger les civils.
Ça, ça a démarré quand?
Elle a démarré dans les premiers jours de la guerre, exactement. L'idée est née au 6 mars, suite à l'appel d'un ami. Et donc, bon, une semaine, 10 jours après le début de l'invasion, 15 jours. Et ensuite, on a créé l'association de mémoire le début avril, le 8, je crois.
Et comment elle s'intitule, l'association?
Giletukraine.org.
Ah, ok. Alors, est-ce que vous êtes allé déjà sur le terrain, voir là-bas, comment ça se passe?
Oui, je suis déjà allé deux fois en Ukraine, donc en juin 2022 et en août 2022, donc au tout début du conflit. J'y ai passé deux fois 10 jours. Et là, j'y retourne début avril à Tchernivtsi pour amener du matériel, justement. Et il y aura aussi une délégation politique qui va y aller. Parce qu'on a récupéré le matériel de la police municipale de Rueil-Malmaison. Je les remercie, d'ailleurs. Policiers municipaux jouent vraiment le jeu. On a la chance que le président Macron ait eu écho de notre action et qu'il nous soutienne. Donc ça, c'est une très bonne chose, quelles que soient les considérations politiques ou idéologiques de chacun. Et pour ce qui est du président Trump, le cusson qu'on a créé, c'est pour l'inviter à soutenir l'Ukraine et faire en sorte que...
Et pourquoi pas Poutine aussi?
Ouais, parce que Poutine, je pense que si on fait une action, il n'en a un peu rien à faire. Ses intérêts, de la manière qui lui semble la plus appropriée. Ah oui, mais je suis à peu près persuadé que c'est assez similaire. Ben encore une fois, c'est pas des sujets qui les...
Là.
Est-ce que c'est une histoire d'argent? Oui, forcément qu'il y a des enjeux financiers. Mais il y a ces sujets-là. Mais bon, c'est surtout que c'est pas des conflits qui l'impactent directement. Donc, je veux dire, si c'était le Mexique ou le Canada, l'Ukraine, il serait un peu plus concerné. Là, c'est l'autre bout du monde. Et accessoirement, ça affaiblit son principal concurrent commercial qui est l'Europe.
Et est-ce que vous avez fait ça avant la guerre à d'autres pays qui demandaient plus?
Non, vraiment, moi c'est le hasard. J'ai une femme qui est... j'ai une femme qui est slave, qui est biélorusse pour le coup,
Et
réfugiée politique en France. Parce que le régime biélorusse est un régime qui est très dur, probablement le plus dur de... Et du coup, non, c'est le hasard en fait, des affinités, des appels, puis relatif à mon métier. J'ai une entreprise qui opère en collaboration avec les forces de l'ordre, donc on récupère leurs gilets pare-balles. Et d'ailleurs, oui, si je peux profiter d'avoir la parole, on aurait un appel à faire. Ils ont vraiment besoin en ce moment, il fait super froid en Ukraine, ils ont besoin des polaires, des forces de l'ordre, des vestes polaires et des rangers, ils en ont plein aussi, ils les jettent, donc ça on les récupère. On a déjà passé les 5000 articles reconditionnés et expédiés en Ukraine, donc ça, tout ce qui est vêtements. Et aussi s'il y a des bénévoles sur Marseille qui veulent nous rejoindre, on est tout à fait ouvert à avoir des mains qui nous accompagnent et à prendre les bonnes volontés de tous.
Vous voulez rajouter quelque chose à ceux qui nous...
Oui, je veux aussi quand même remercier du coup la police municipale, tous les maires qui nous ont donné des gilets, c'est-à-dire plus de 100 communes déjà, notamment la commune d'Aubagne, là j'y pense, et aussi vraiment remercier chaleureusement l'ESAT et la DAPEI de Saint-Brieuc, parce qu'en fait c'est des jeunes qui sont en situation de handicap mental et qui récupèrent notre matériel pour l'anonymiser, donc qui sont vraiment essentiels à la réussite de ce projet-là.
Merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage.
That you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Talk about it.
C'était l'ère du cannabis. Et s'il vous plaît, l'une des meilleures voix de l'histoire de la musique, Rod Stewart. Allez, on revient à Bernard Genet, analyste géopolitique. Sur l'Ukraine, bien sûr.
Bonjour Bernard.
Bonjour Camar, je suis très content de te revoir.
Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'acteur comédien Zelensky, non ?
Voilà, oui, alors, Volodymyr en ukrainien, Vladimir en russe. C'est la même chose. Hein. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que c'est deux langues cousines et que avant la guerre en Ukraine, les gens allaient au boulot, ils parlaient ukrainien, ils revenaient à la maison, ils parlaient russe, ou l'inverse. Il n'y avait pas de problème entre les deux langues qui sont deux cousines. Bon, je dis là-dessus parce que après, il y en a un qui a voulu interdire la langue de l'autre et c'est comme ça que tout a mal tourné. Alors, Volodymyr Zelensky. Il n'est pas connu jusqu'au moment où il va devenir président de la République. Il est connu comme comédien. Alors quand est-ce qu'il apparaît sur les scènes, je ne sais pas précisément, mais il intervient à un moment particulier, c'est-à-dire que après le coup d'État de 2014, organisé par les États-Unis avec la présence de Madame Victoria Nuland du département d'État qui vient distribuer des croissants et des hamburgers aux manifestants contre le gouvernement élu. Bon, l'implication est claire puisqu'on a même enregistré une conversation téléphonique qu'elle avait eue avec un autre diplomate où on disait on met notre équipe à nous et même si les Européens veulent mettre quelqu'un, elle a dit, je le dis en anglais parce que tout le monde, fuck European Union. Hein, donc les Européens, on s'essuie les pieds dessus, tant pis pour eux. Alors les 10 Européens n'ont réussi qu'à caser comme maire de Kiev, donc ce n'est pas un poste gouvernemental, le championnat du monde, le champion du monde des poids lourds, Klitschko, et c'est la seule poste que les Européens ont eu. Le Klitschko avait été sélectionné par la fondation Konrad Adenauer. Alors il faut savoir qu'en Allemagne, derrière chaque parti politique, il y a une fondation où il y a le gros de l'argent, le parti on lui donne pour organiser les élections, mais le trésor, il est dans la fondation. Donc la fondation Konrad Adenauer avait choisi Klitschko pour être le représentant en Ukraine des intérêts allemands, et Klitschko n'a rien eu, si ce n'est la mairie de Kiev, où il est toujours maire de Kiev d'ailleurs, mais il ne sert à rien, il ne prend aucune décision. Bien. Alors, on arrive à cette saison où, donc, coup d'État de 2014, le président élu démocratiquement en 2010, qui s'appelle M. Yanukovych, qui est du Parti des Régions, est considéré comme pro-russe. En fait, il n'est pas pro-russe, il ne veut pas être totalement entre les mains de l'Union européenne ni totalement entre les mains des Américains. Il essaye de tenir un équilibre difficile entre les deux côtés. Mais côté occidental, on dit que tu es pro-russe puisque tu n'es pas entièrement de notre côté. Bon, classique. Bon. Ce monsieur Yanukovych, j'en fais pas un héros du tout, c'est aussi un milliardaire qui est, dont la fortune est assise sur les richesses de l'Est de l'Ukraine. Donc là où il y a les mines de charbon, les aciéries, la plupart des richesses minières, etc. sont là. Donc il a beaucoup de l'argent. Et il est le chef même des milliardaires ukrainiens les plus riches. Bon, donc pas un politicien respectable. Ceci étant, il a été élu. Il a été élu. Et à un moment donné, on est donc en 2013-2014, au moment où les États-Unis et l'Union européenne font pression en disant à Yanukovych, tu dois tomber chez nous. On veut que tu adhères à l'Union européenne et on veut après que tu adhères à l'OTAN puisque ça va ensemble. Et lui, oui, mais je vais me fâcher avec les Russes. On a de bonnes relations avec les Russes. On a des échanges économiques. La frontière est ouverte, c'est tranquille, etc. Moi-même, j'ai des affaires en Russie. Bon, il hésite. Et donc là, l'hésitation lui est fatale. Aux États-Unis, à Washington, et toi, tu hésites, tu n'es pas totalement notre serviteur, tu vas tomber. Bon. Effectivement, il tombe avec, je ne détaille pas les circonstances matérielles du Maïdan, mais c'est quand même à un moment donné, il y a des tireurs qui sont dans un hôtel qui est sur la place Maïdan, qui tirent à la fois sur la police et sur la foule. Donc on démarre l'émeute, les camps s'entretuent, bon c'est affreux, et donc à ce moment-là, le coup d'État a lieu, et Yanukovych sauve sa peau, in extremis, il saute dans la voiture avec son chauffeur et il s'en va. Il sait qu'il va mourir, parce que ses adversaires sont en train d'investir le palais présidentiel et ils vont lui couper le cou. Bon. Il part très très vite, il va en direction de la Russie parce qu'il sait que là il sera accueilli correctement malgré tout. Et à un moment donné, alors qu'il est encore à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière russe, les autres, ces poursuivants qui veulent l'assassiner, le rattrapent. Et il y a, par chance, mais c'est une chance je pense qui avait été organisée, les services secrets russes qui sont là, qui le protègent, barrent la route aux autres, et il arrive en Russie. Et ce jour-là, le jour même où il arrive en Russie, Poutine prend la parole et dit « Nous avons sauvé la vie de M. Yanukovych, sa vie politique est terminée. » Sa vie politique est terminée. Ça veut dire il est chez nous, il est sain et sauf, il n'a pas été exécuté comme un sauvage. Bon, c'est tout. Il n'aura plus jamais rien à dire sur l'Ukraine. Hein. Il vit heureux, il a ses milliards, il est bien, on n'en parle plus. Bon. Donc, fin de l'épisode. Et donc, du coup d'État, il va sortir un président fabriqué par le coup d'État qui s'appelle M. Porochenko. Alors qu'il était déjà dans les cercles du poids, c'est un autre milliardaire, mais lui, il a fait sa fortune dans le trafic du chocolat. Donc, j'importe du chocolat, je le revends, je le mets sous forme de tout ce qu'on veut, de petits gâteaux, de petites bouchées, c'est un milliardaire du chocolat. Et donc il est élu dans ce pays qui est victime d'un coup d'État, avec l'opposition qui a été exclue, donc les pro-américains et les pro-européens, puisqu'à cette époque c'est encore la même chose, ont mis en place leur président de la République, Porochenko. À partir de ce moment-là, ce qui n'est jamais expliqué, c'est que les régions de l'Est, c'est-à-dire on parle des régions du Donbass, donc les deux provinces de Lugansk et de Donetsk, sont considérées comme pro-russes, d'ailleurs ils parlent russe et tout, et donc le gouvernement de M. Porochenko décide de leur faire la peau. Et à partir de 2014, à longueur de journée, il y a des bombardements, des tirs sur les écoles, des tirs sur les hôpitaux, on casse les maisons, etc. Bon. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des pro-russes, donc ou vous venez chez nous, hein, ou bien vous partez en Russie et laissez-nous la place. Vous n'êtes pas chez vous, c'est chez nous maintenant, c'est chez les révolutionnaires, enfin les révolutionnaires, entre guillemets. Bon. Ça, c'est la politique de M. Porochenko qui lui est dictée par les États-Unis. Et en même temps qu'ils bombardent les deux provinces du Donbass, ils font une espèce de forteresse, c'est-à-dire tout le long de la frontière de ces deux provinces, ils font des camps retranchés dans des vieilles usines, dans des vieilles mines, etc. C'est-à-dire qu'ils prévoient un encerclement de ces provinces en disant à un moment donné, on rentrera, mais là on fait un cercle. Ils font même à l'intérieur de la province, je pense à la ville de Mariupol, où il y avait une aciérie, énorme aciérie, avec des sous-sols, une mine dessous et tout, cette aciérie qui est à Mariupol, c'est quasiment au bord de la mer Noire, est transformée en forteresse anti-russe.
Un bunker, quoi.
Enfin, un bunker, mais un bunker de plusieurs milliers d'hectares, un truc de, avec des provisions pour des jours et des jours, des stocks d'eau douce, des stocks de nourriture, de quoi tenir un vrai siège. Et d'ailleurs, l'armée russe mettra plusieurs mois à arriver à en venir à bout, parce que c'est très compliqué, et tu n'envoies pas des types dans des souterrains où ils ne sont pas, et te faire assassiner l'un après l'autre. Donc il faut préparer le truc. Bon, ouais. Donc ça, c'est la politique de M. Porochenko. La politique de M. Porochenko, qui alors... En même temps qu'il fait ça, c'est-à-dire fabriquer la ceinture de fortification pour encercler les deux provinces, en même temps qu'il les bombarde, il fait la comédie avec M. François Hollande et Mme Angela Merkel. C'est-à-dire que les accords de Minsk qu'il a signés sous une première forme puis sous une deuxième forme, il ne les respecte pas. Et j'ai en mémoire de vidéos ou dans des réunions pour les accords de Minsk où sont donc présents la France, l'Allemagne, accords de Minsk qui sont garantis par le Conseil de sécurité de l'ONU comme étant une référence en matière de droit international, où on voit Vladimir Poutine en train de dire « Mais vous avez signé ça, faites-le !» Et les autres font les ânes, ils ricanent, tu vois. Alors ils ricanent parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, mais ils ne le disent pas tout de suite. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit après, ils l'ont dit il y a un an ou deux, Mme Merkel d'abord et M. Hollande ensuite, ont dit « Ah mais les accords de Minsk, c'était uniquement pour que Porochenko ait le temps de faire ses fortifications et d'écœurer les camarades du Donbass ». C'était à ça que ça a servi. Donc ils n'ont jamais eu l'intention de faire une négociation sérieuse pour donner la liberté d'expression en russe, pour donner une autonomie régionale. Ils ne demandaient que ça, une autonomie régionale, pas plus. Alors, ça va se terminer d'une façon très très différente, mais tant pis pour eux. Hein. Enfin, bon. Alors voilà M. Porochenko, donc, qui en fait n'avance pas vraiment, parce qu'il fait son encerclement. Oui, mais voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis se disent « Porochenko, il n'avance pas beaucoup, il faut créer un événement pour arriver à reprendre la situation en main, puisque le Donbass résiste, il y a les accords de Minsk, bon, on fait traîner, mais ça ne sert à rien. » Et donc on dit « On va organiser de nouvelles présidentielles. » Alors, qui envoyer aux présidentielles? Eh bien, envoyer un candidat qui va faire des discours pour la paix et la réconciliation. Alors, on est en train de bombarder les camarades du Donbass tous les matins, 20 ou 30 000 morts, hein, des enfants, tout, indistinctement. Alors, pourquoi on le prend lui? Parce que c'est un comédien. On lui dit, toi, tu vas faire croire que tu veux la paix. Et il fait sa campagne en disant, il va y avoir des négociations de paix. Et il est élu triomphalement, parce que le peuple ukrainien commence à voir que ça coûte cher, que ça avance pas, qu'on tue des camarades de l'autre côté de la frontière qui n'en étaient pas une avant et tout. Donc, il passe là-dessus. Pourquoi on l'a pris lui? Parce qu'on va lui faire jouer ce rôle du faucheton, du traître, c'est-à-dire celui qui dit « je suis là pour la paix » et il est là exactement pour le contraire de la paix. C'est pour ça qu'il faut un bon comédien pour faire passer le message. « Je veux la paix » alors qu'on te dit, les gens qui t'ont choisi disent « ce que tu feras, c'est la guerre, jusqu'au bout, jusqu'à l'élimination du Donbass. Ah, » bon. Et effectivement, il commence avec ce discours. Et pourquoi on a pris un acteur ? Parce qu'on lui a dit « c'est ça ton rôle ». Il a bien répété, c'est un bon comédien. Enfin, un bon comédien. Il faisait des sketchs d'un goût moyen, voire douteux dans certains cas. Mais bon, c'était un comédien, il était connu. Donc, sur la base, ah ben, c'est un type sympa qui fait rigoler. Qui fait rigoler, donc il va être populaire. Et effectivement, ça marche. C'est-à-dire, il est élu très très facilement avec une grosse majorité. Sur l'illusion, il va y avoir la paix. Illusion qui est partagée des deux côtés, aussi bien au Donbass que dans le reste de l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur ? Ben, il va donc changer son discours, et puis on va le faire entourer d'un certain nombre de gens dont on est sûr, parce qu'on les connaît depuis longtemps, qui sont des néo-nazis ukrainiens. Alors lui, il est là, comme comédien de service, pour faire le discours officiel, mais autour de lui, dans son bureau d'à côté, dans son chef de service d'assistance, dans son garde du corps, c'est tous des néo-nazis. Et donc, lui, il sait que s'il ne dit pas le rôle qu'on va lui dire de dire, s'il ne dit pas son texte qu'on lui a appris, il va mourir. Parce que c'est des gens qui ne font pas de cadeaux. Si on dit qu'il faut tuer Zelensky, on tue Zelensky. Donc pour ne pas mourir, Zelensky, qui n'est pas très très courageux, mais il est là pour ça, puis il se dit, bah, tant pis, je vais dire ce qu'on me dit, je vais dire ce qu'on m'a dit de dire. Et puis, on va lui faire comprendre qu'on le rétribuera bien. Ça va payer. Parce qu'on s'est aperçu que ce n'est pas un personnage très intéressant. Et que là, si on lui dit, enfin si on lui laisse comprendre, parce qu'il voit bien. Il voit bien parce qu'il a vu quand même venir le fils de Biden en Ukraine pour faire du business, pour acheter des affaires, défendre les intérêts des Américains et tout. Et il a vu que chacun se mettait dans les poches à son tour. C'est comme ça que ça fonctionne, le bidenisme. Donc, ils me choisissent, donc je vais prendre ma part de ce gâteau pourri. Et effectivement, c'est ce qu'il commence à faire. On dit que maintenant, sa fortune s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars, c'est très probable. Il a acheté des appartements ici et là, on va dire, à Londres, ou bon, peu importe, il a de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a découvert, en fait ? Quand il a dit, de toute façon, moi je tiens mon rôle, je suis payé en tant que comédien, et en plus je peux me remplir les poches. Comme ce n'est pas un type très intéressant, il dit, je vais me remplir les poches. Et on en arrive à la situation actuelle. C'est-à-dire que ce qui se passe avant qu'il arrive au pouvoir, c'est Trump numéro un. Donc il a bien vu qu'entre Trump et Biden, c'était la lutte de deux gangs. Confirmation, c'est pas juste. Il y a deux gangs qui s'affrontent et qui se feront aucun cadeau.
Oh non, when I'm with you all day long.
Bernard Jeunet revient dans un moment.
Oh non, when I'm with you all day long. I can tell you away from your bottle, quicker than from your song. Hidden and parting about your troubled mind. Hidden and parting about your troubled mind. You're so busy with yourself, you don't hear your children crying. You cry about the devil while you mess.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Galère au 88.40 DAB plus www.radiogalère.org avec l'émission Haraga.
And by the way, who you talking about when you talk about the hellhound on your trail? I'm going to leave you, darling, before you go and get yourself killed. I said I'm leaving you, boy, before you get yourself killed. The
because of some sweet thing. Big dog don't get you, honey. You best believe the Allen boy will. Why you left him with his wife, and you got nothing better to do with your weary life. Get quick, quick, quick. 1, 4, 5, fuss, fighting well. And by the way, who you talking about when you talk about the hellhound on your trail?
I'm gonna leave you. Est-ce qu'on organise des sondages? Je ne sais pas. Peut-être la police politique fait des sondages comme ça par discrétion. Alors Trump répond en disant, Zelensky répond en disant, moi j'ai 57%. Tu peux dire tout ce que tu veux, toi, comédien, t'as dit n'importe quoi et le contraire, ça vaut rien. Le problème c'est que tu te sens mal, tu risques de disparaître, mais tu sais, et c'est ça qui est intéressant dans la partie qui se joue entre Trump et Zelensky, parce que Zelensky, il a compris, en tant que voyou, qui avait plus voyou que lui à Washington. J'ai parlé de Nancy Pelosi, de Madame Buffett, etc. Il y en a d'autres. Et il sait qu'il s'est servi au départ. Les 100 milliards, ils partaient jamais de Washington. Il y en a une partie qui restait sur place, qui allait chez les copains, et il y en avait un peu qui arrivait en Ukraine, mais pas tout. Et donc, il dit, moi, j'ai jamais reçu l'argent. Et Trump dit, ah, alors il est où cet argent? Parce que là, il veut régler les comptes avec les démocrates. Ah, mais explique-toi. Et il attend que ça, Trump. Regardez, les démocrates ont fait tout faux. Et c'est des voleurs. Et c'est vrai. Mais lui aussi.
Donc, depuis l'éviction de Biden,
ouais.
Zelensky est tombé dans une réserve de hyènes.
Tout à fait, voilà, parce qu'il sait toujours qu'il a les néo-nazis qui sont dans son bureau, quoi. Donc le jour où, à Washington, on dit, allez, demain il est mort, eh ben, le lendemain il sera mort, quoi. Bon. Alors, peut-être ils n'iront pas jusque-là, peut-être il prendra la fuite lui-même, mais il est surveillé, il a des néo-nazis partout. Si ses gardes du corps sont service de sécurité, c'est tous des types qui sont payés par les néo-nazis. Bon. Donc, c'est pas trop sûr, il doit le avoir un peu chaud aux fesses, comme on dit vulgairement.
Et est-ce que Zelensky ne va pas changer de veste avec l'arrivée de Trump?
Non, je pense que c'est trop tard. C'est trop tard parce que...
Pour sauver sa peau.
Ah oui, j'ai pas l'impression. Alors, effectivement, l'intérêt de Zelensky pour la situation actuelle, c'est que Zelensky, dans la mesure où il dit « moi je continue la lutte avec ce qui me reste », c'est-à-dire pas avec grand monde, c'est-à-dire avec surtout des mercenaires. On a appris hier, par exemple, qu'il y avait plusieurs centaines de membres de la Légion étrangère française qui venaient d'être tués dans un tir de missile russe. Centaines de membres. Alors Macron nous dit on va envoyer des troupes, elles y sont déjà. Alors pas des milliers d'hommes, parce qu'il a annoncé beaucoup plus, mais il y a déjà des centaines, et puis il y en a qui meurent, il y en a qui sont morts à Kursk, là c'était vers Odessa, il y a des soldats français un peu partout disséminés. Soi-disant dit c'est des conseillers techniques, c'est eux qui apprennent à tirer avec le camion César, c'est ça et tout. Il y a des soldats français en permanence, on sait ce qui s'y passe. Bon, donc là il n'y a pas de souci. Alors Zelensky, qu'est-ce qui peut lui arriver? À mon avis, le meilleur des choses, il verra un moment, il dira « bon, le moment, c'est trop tard, je m'en vais hein, », parce que autant être vivant avec mes richesses et plus penser au pouvoir, bon, c'est pas un type très, c'est même un type pas intéressant du tout, c'est un type stipendié, comme on dit, c'est un type qui a été acheté pour tenir ce rôle-là, le rôle est fini, parce que Trump dit « moi, l'Ukraine, dès l'instant où je suis propriétaire de la mine de ceci, de la mine de cela et tout, le reste, je m'en fous, et la population ukrainienne... » Qu'est-ce que c'est que la population ukrainienne aujourd'hui? C'est pas très très clair, parce que dans la mesure où il y a état de siège, pas de presse, pas d'opposition et tout, combien il reste d'Ukrainiens en Ukraine? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en partant des chiffres initiaux qui étaient justes, puis c'était à la fin de l'URSS, 52 millions d'Ukrainiens, il en reste peut-être 20-30, on n'en sait rien. Il y a des Ukrainiens partout, partout, partout en Europe en particulier, mais pas que. Il y en a eu au Canada, puisqu'il y a eu un incident au Parlement d'Ottawa. Il y a un type qui était un ancien pro-nazi qui a été salué avec enthousiasme, standing ovation, par le Premier ministre Trudeau et tout. Il se trouve que c'était un nazi, enfin un vieux nazi qui avait encore de l'âge. Bon, on l'a applaudi. Bon, donc il y en a partout. Mais ce que j'insiste, c'est que par rapport à ce qu'on nous dit sur la lutte contre l'immigration en France, qui a dit un mot sur les centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont arrivés ici.
Salut, ça va bien.
Qui ont été super bien accueillis, ils ont trouvé des boulots, on les a chouchoutés et tout. Il arriverait 100 000 Algériens aujourd'hui, il y aurait une émeute. Hein. Là, il est arrivé 200 000 Ukrainiens, ils ont casé. Alors, c'est bien parce qu'ils sont blancs. On est en plein racisme.
Alors, on aura l'occasion de parler de Retailleau s'il reste en place, parce que cette flambée de haine contre l'Algérie, les Algériens en général, parce qu'on parle maintenant de terrorisme algérien.
Tout à fait.
Malheureusement, mais ça n'arrange personne.
Mais non, parce que de toute façon, ça permet de faire des misères à des gens qui sont démocrates en Algérie, qui étouffent, qui veulent venir ici. Bon, si on les accueille de plus en plus mal, ça se passera mal. Et puis en fait, on a maintenant les outils sur place, c'est-à-dire on, Macron et ses amis du Rassemblement National, qui évitent que le gouvernement, que ce soit Barnier ou Bayrou, tombe. Je dis que c'est des amis de race. Bon, donc lui permettre d'essayer de finir son mandat, ce qu'il souhaite, bien entendu, peut-être même d'en faire un troisième, parce qu'il y a maintenant des rumeurs qui circulent en disant qu'il voudrait faire retoucher la Constitution une fois que Ferrand sera au Conseil constitutionnel. Tout ça est derrière.
Ben, vaut mieux qu'on refasse le toit. Hein. Ça fuit de partout.
Ça fuit de partout. Donc effectivement, l'utilisation de l'arme de l'immigration, c'est une façon de faire plaisir au Rassemblement national. Ouais. Alors avec cette leçon qu'on aurait dû méditer depuis très très longtemps, c'est-à-dire que quand un parti de droite se met à tenir le langage de l'extrême droite, les électeurs ne se déplacent pas. On dit toujours, les électeurs préfèrent l'original à la copie. C'est une vieille phrase qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire, un monsieur ou une dame qui ont voté Front National, puis maintenant Rassemblement National, si Retailleau dit la même chose que Marine Le Pen, c'est pas pour ça qu'ils vont venir voter Retailleau. Non, lui, avant, il disait si, maintenant, il dit ça. Là, au Rassemblement National, ils ont toujours dit qu'ils étaient contre les Arabes, et c'est du solide, c'est ça qu'il nous faut.
C'est lui, c'est Tebboune qui va lui régler l'affaire.
Voilà, voilà exactement. Donc, cette idée est valable en Ukraine comme ici. Hein. L'original, c'est toujours meilleur que la copie pour l'électeur de base. Bon, donc, les droites européennes sont dans un état très inquiétant. Alors, ça débouche aussi sur la politique de Trump. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans ces fameux 60 jours où il coupe tout, c'est-à-dire, il est en train, on dépasse de Zelensky, mais il est en train de déraciner tout ce qu'ont fait les démocrates en Ukraine et aux États-Unis. Déraciner, ça veut dire supprimer tous les crédits de la fameuse USAID, toutes les ONG, ou là encore, les dirigeants des ONG dont le siège était à Washington, gagnaient de très très gros salaires pour faire de l'humanitaire, pour faire la charité. Ça paye dans ces cas-là, la charité. C'est pas toi qui donnes de ta poche, t'as l'État qui donne de l'argent, toi tu en prends une grosse partie, et puis après tu fais un cinéma en disant « Ah, j'ai donné un peu d'argent, j'ai trouvé une veuve, un orphelin, j'ai été... »
De la pastèque marocaine.
Voilà, exactement. Hein, donc, c'est la comédie. Bon, donc, Trump, il est dans la période, c'est ça les 60 jours de Trump, on n'a pas compris. Il est en train d'arracher tout les racines du bidenisme partout où elles sont, à Washington et en Europe, dont Zelensky fait partie. Bon. Après, ça ne veut pas dire que ce monsieur est un enfant de cœur. Ce monsieur n'est pas un enfant de cœur. Ça veut dire qu'après, sur ce terrain où il aura extrait les mauvaises racines de la pourriture démocrate, il plantera les siennes. C'est ce qui explique la politique de monsieur Musk, qui dit « Je viens en Europe et je dis aux Allemands « Votez à l'extrême droite ». C'est ça, les plantations futures de monsieur Trump, c'est-à-dire...
Extrême droite nazie, hein ?
Nazie, tout à fait. Ouais, ah oui, clarifie. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas qu'on ait d'illusions sur Trump. C'est un règlement de compte entre deux gangs, je l'ai dit. Il y a un gang qui est au pouvoir, qui a tous les pouvoirs. Miraculeusement, il a le Sénat, la Chambre des représentants et tout. Il a les ministres et tout. Et donc, il éradique, qu'il veut enlever toute trace des démocrates dans tout le système de pouvoir établi, dans toutes les administrations. Ministère des Affaires étrangères, à la Défense et tout, partout. Et après, il plantera ses racines à lui. Ces racines qui sont là, carrément d'extrême droite. Et donc, les discours de Monsieur Musk, il faut les prendre comme ça. Nos futurs amis, et on le dit déjà, il vient en Allemagne, il dit « Votez pour l'extrême droite néo-nazie ». Il ose le faire. Il est pour toutes les extrêmes droites qui vont se proposer, et le moment est peut-être pas éloigné où ils diront « Mais ne votez pas Macron, votez Marine, hein, je l'exclus pas ». C'est ça leur politique. Donc on a bien deux gangs, il y en a un qui est en train de liquider l'autre, et l'autre refera. L'autre, c'est aussi un gang, il faut le prendre pour ce que c'est. Il n'y a aucun espoir pour la civilisation dans l'un ou l'autre gang.
Enfin, l'Europe est en train de changer. La conclusion, Bernard.
L'Europe n'est pas en train de changer, l'Europe est en train de s'effondrer. On a témoigné la réunion de lundi, les deux réunions, puisque Macron, dans la panique, il a dit...
Moi, j'ai été plus gentil. Là. Oui.
Non, mais c'était rigolo, parce que donc on voit ce qui s'est passé, donc les relations nouvelles, sur lesquelles on pourrait beaucoup développer, sur les relations nouvelles entre la Russie et les États-Unis, parce que Trump, dans la mesure où c'est un voyou, il dit oui, je suis un voyou, mais enfin, j'ai quelqu'un qui est costaud, avec qui je vais avoir des difficultés. Donc je ne fais pas le mariole. Hein, parce qu'un voyou, il s'est mesuré. Il dit, oh, en face, il y a du pouvoir, il y a une force de frappe, il y a de l'artillerie, il y a tout ce qu'il faut. Je ne fais pas le mariole, je ne vais pas faire le banan en disant, je vais te casser la gueule. Non, ça ne marche pas, parce que c'est lui qui risque de faire casser la figure. Bon. Donc il fait ça. Donc on n'en est que là dans les rapports entre la Russie et les États-Unis. Donc c'est des nouveaux rapports qui sont en train de mettre sur pied, sur la base d'une Russie qui dit, je veux être traité comme tous les autres pays, comme vous traitez la Chine, comme vous traitez l'Inde. Je ne suis pas un paria de la société humaine. Hein.
Retour au passé.
Exactement. Et Macron, pris de panique en disant « Mais j'ai tout fait pour le camp de Biden, pour les démocrates, j'avais des copains, j'y allais tout le temps, je tapais sur le ventre à Zelensky 3 fois par semaine, je le chouchoutais dans mes bras, je le cajolais et tout. » Et ma foi, Zelensky, il file un mauvais coton. Et donc, il essaye, ce qu'il a fait lundi et mardi, de faire des réunions de certains pays européens. Alors, là aussi, il y a des gens qui devraient réfléchir. Pourquoi il n'a pas invité les Croates, les Slovènes, les Bulgares? Parce qu'il leur crache dessus, il les méprise. Qui compte en Europe? Moi, Macron, Starmer, le Britannique, à la rigueur, les Allemands, les Italiens, éventuellement Sanchez, et puis ça s'arrête là, les autres, on n'en parle même pas, c'est des moins que rien. C'est des idiots de l'Europe, tous ces petits pays, parce qu'ils sont là.
Le malade mental, l'Argentin.
Voilà, ma bille. Ils m'ont foutu la tête. Voilà. Et ce qui sort de ça, c'est que...
Elle a quel âge? 14 ans, quoi.
Presque. Donc, faire une campagne électorale, disons, avec la tronçonneuse à la main, ouais. Disant, je vais faire de la politique comme ça, et oulala.
Il regarde beaucoup les films d'horreur.
Le cas est grave, tu vois. Ah, va te soigner, camarade Milley, ouais. Mais fais autre chose que de la politique. Tu vois. Et donc, Macron est... Il est au bord du vide, il patauge, c'est comme dans les dessins animés, tu sais, on voit un petit monsieur qui court, il arrive au bord de la falaise et il continue à courir voilà, au-dessus du... Ça c'est Macron, et donc il s'est rendu compte lundi et mardi que l'Europe ça fonctionnait pas, que chacun regarde comment ça se passe, va essayer de défendre ses intérêts, il fait croire qu'il va continuer tout seul, il croit pas, puis d'ailleurs quand il saura... Le problème, comment il va masquer les cercueils des légionnaires étrangers, des autres soldats français qui meurent là-bas. On va dire qu'ils sont morts dans un accident de voiture en allant en vacances en Creuse, je ne sais pas, ou au Mali, je ne sais pas quoi, mais il ne va pas pouvoir dire, j'avais envoyé plusieurs centaines de légionnaires, ils sont tous morts, dans un seul crash, sur un seul hôtel, ils étaient tous là, ils sont tous morts. Bon, donc il est paniqué parce qu'il a perdu son point d'appui qu'était Biden et sa troupe, maintenant l'autre le méprise, alors... Trump le méprise, il dit, toi, tu étais trop copain avec les Bidenistes, j'ai pas trop confiance en toi. Et puis, il le considère comme un moins que rien, une espèce d'agir. Alors, en fait, c'est un comédien. Alors, on a l'inverse, on finit un peu sur Zelensky. Zelensky, c'est un comédien qui se met à faire de la politique. Et Macron, c'est un politicien qui se met à faire de la comédie, c'est plus faire
dans
que ça. Voilà, que dans le théâtre. Et il change de rôle chaque fois. Et là, il doit être en train de se dire en ce moment, à quel rôle il faut que je tienne maintenant, parce que je voudrais bien rester encore 2 ans là où je suis, mais j'ai pas appris le nouveau rôle. Et c'est quoi le nouveau rôle? Hein, parce qu'il va aller aux nouvelles, il va demander à Ocean qu'est-ce qu'il faut que je dise, il va demander aux autres qu'est-ce qu'il... Mais il sait qu'il est pris la main dans le sac parce qu'il a trempé dans le gang des démocrates. Et maintenant, il faut sortir parce que t'as les mains sales, camarade, t'as les mains sales. Et puis la France n'est pas en très très bonne santé, de ta faute, tu l'as endetté beaucoup. Et quand tu dis que tu vas nous faire une politique de guerre, ça veut dire que tu vas nous faire une politique antisociale. Et donc, la confiance que tu as... Trump ne l'a pas fait encore, mais il pourrait dire, ah ben d'après les derniers sondages... Macron, il est à 4%. Et on n'est peut-être pas si loin de la vérité. Alors, et je pense qu'un jour, ça arrivera. Si Macron fait trop le malin, un jour, Trump va l'assassiner sur les écrans, et dire, ah, tais-toi, petit. Voilà. Maintenant, on sait avec qui tu as trafiqué, avec les démocrates. Hein, et maintenant, ton temps est passé. Alors, c'est pas mûr, mais c'est très possible. Et Trump est tout à fait capable de faire ça. Allez, on t'a assez vu, tais-toi. Tais-toi, tu n'y arrives. In volatile sway, Jung and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay.
17h04 sur les ondes de Radio Galère. Vous étiez avec Bernard Genet, géopolitique. Et après cette chanson, on va passer à Farid, deuxième épisode. Vous savez, jeudi passé, on a passé Djilali et maintenant c'est Farid. C'était exactement au Café Prender.
Exactement,
ils sont corrects.
À la Darla Mifa, on les salue et moi je les fréquente beaucoup. Ils font un très bon travail et on les salue et on les.
C'est pas une grosse structure, ils dépendent de personne.
Là c'est au vieux port. Hein.
Et du coup, il a fait 10 euros. On a un des il y a 30 de tout le chien.
Ne vous faites pas embarquer. Ça vous lègue ici. Les vivants au prix des morts. Allez, madame, les chants, la matinée. Nous vivants de matinée. Mangez frais, mangez bon.
Alors moi c'est à Nice, je suis un bénévole des Marottes sans nom. Les Marottes sans nom c'est un collectif citoyen de plus de 50 personnes qui ont récupéré le local la Darla Mifa, 127 rue d'Aubagne. C'était une association culturelle qui a amené à se réinventer. Donc cette association, comme c'est une association culturelle et dans cette période de coronavirus, elle a été fermée. Du coup, pour ne pas avoir les locaux qui restent vides, elle nous a gentiment mis à disposition ces locaux. Et nous, on a 3 jours par semaine où on va faire de la récupération de denrées et on va retransformer ces denrées alimentaires pour les redistribuer dans Marseille. C'est le lundi à partir de 14h, le mardi, le vendredi à partir de 14h et le mercredi. On refait, pour bien que les gens y comprennent, le lundi à partir de 14h, le mercredi à partir de 14h et le vendredi à partir de 14h à 127 rue d'Aubagne, donc à la Darla Mifa. On a une page Facebook qui s'appelle donc Les Marottes sont nom. Et donc s'il y en a qui veulent cuisiner, qui veulent nous donner des choses, c'est à 127 que ça se trouve, à rue d'Aubagne. Et on est là aussi présent le mercredi matin au marché en expliquant ce qu'on fait. On redistribue des invendus et des cafés à prix libre pour avoir une petite caisse. Parce que voilà, il faut rappeler qu'on est un collectif citoyen. On n'est pas une association. Et on fait apolitique, on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que ça s'appelle Marotte son nom. Donc on n'a pas de nom, on le fait avec le cœur.
Pas de subvention, rien.
Pardon ? Pas de subvention, rien du tout. On fait tout avec le cœur, mais on a beaucoup de bénévoles. Du coup, on a une vraie brigade. Donc l'après-midi, ils vont cuisiner. Les jours précédents, ils vont récupérer les denrées qui vont se perdre. Et après, le soir, on va mettre ça en barquette et on va le distribuer dans tout Marseille. Secteur, on fait cours Julien. C'est les repas partagés, donc le lundi et le vendredi. Alcazar, Réformé, Belzins, Canebière, le reste de la semaine, donc le mercredi et le lundi.
Alors, comment vous voyez la situation ici en France et en général, et à Marseille en particulier, depuis le Covid, et ça s'aggrave.
Faut rappeler des chiffres. À Marseille, c'est quand même 14 000 SDF. En 2016, c'est les chiffres de 2016. On n'a pas les chiffres d'aujourd'hui. Donc, si on rajoute de ça deux crises de confinement, des restaurants qui ferment, donc tous ces gens qui travaillaient au Black, ils essayaient de survivre, hein. Ils n'arrivaient pas à vivre, mais ils survivaient. Et bien là, c'est sûr que ça craint, c'est de plus en plus difficile pour ces personnes-là. Donc heureusement qu'il y a ces marottes, ces collectifs qui se créent et qui aident et qui créent cette solidarité. Donc juste un petit point sur la solidarité pour dire que voilà, c'est quand on met le doigt dessus, c'est quand on se renseigne, on devient bénévole dans ces structures-là, qu'on voit qu'il y a vraiment plein de fourmilières, plein de ruches qui se créent autour du cœur et des élans de solidarité que personne n'aurait imaginé.
Alors, vous êtes combien à travailler ?
On est une 50, à peu près, un collectif de 50, mais on a toujours besoin de bénévoles pour la simple raison que ça tourne. Il y en a, ils vont être là une semaine, d'autres la semaine d'après, il y en a, ils vont faire le lundi. Donc, on a besoin des bénévoles en permanence, comme de denrées, comme de fonds et de locaux.
Alors, là, est-ce que vous faites la récup?
Oui, on fait la récup. On fait la récup à Emmaüs. À Emmaüs, on fait la récupération aussi à une association qui s'appelle Les Sourires pour les Anges, qui nous donne beaucoup de denrées alimentaires. Et dans les magasins, on a des boulangeries Paul qui nous donnent leur invendu. Donc voilà, tous ceux qui veulent donner un truc, c'est les bienvenus. Malahaba, comme on dit.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, non, non. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. Et merci pour votre écho.
Ah, il n'y a pas de quoi.
Ouais. Bien du courage.
Il est jeune.
Là, tu veux dire un mot sur la Mabode?
Bonjour. Alors, les maraudes, en fait, c'est le poumon de Marseille. Parce que comme on sait qu'il y a beaucoup de précarité, et en général, ça marche ensemble, précarité et solidarité. Donc, c'est un petit coucou aussi que je fais à tous les maraudeurs.
والله ما يبراش كتلتني بالجرجير والغبينة بقويه قلبي الرب شدارت فينا هاي كل يوم وليت ما طيح فراش مرضي زاد الرب العالي موحل ما يبرا كتلتني بالموفيس وهنا والغبينة حابب مالي أنا وقلبي شدارت فينا هذه هي وصلت حتى الرب تخلص بيطا كي نتفكر حي تشعل في قلبي النار اتبانيكا نكره كل شيء ما يبان لي وينو بين عينيات بلي غيب انتي وصلتني دخلتني حتى للسبيطا كي نتفكر حي تشعل في قلبي النار.
De Sandra Belbès et du coup même si en temps normal je m'occupe particulièrement des Roms avec mon association Arte Chavalo, l'année dernière au moment du confinement il y a plein d'amis donc du quartier de la Plaine, de ceux qui avaient ouvert la maison du peuple et des gens qui sont militants et solidaires vraiment dans leur cœur qui ont commencé à monter cette maraude et qui ont eu on a eu la chance aussi de pouvoir être en lien avec la Darla Micha qui est devenue d'ailleurs un centre social au TGR depuis et qui prêtait son local et ses cuisines pour pouvoir faire la récup et pour pouvoir préparer des repas. Du coup, à l'époque d'ailleurs, on faisait aussi Castellane, le cours Julien, les réformés. Et à un moment, il y a eu l'incendie de Saint-Just. Et du coup, il y a eu aussi un lien avec toute l'équipe de Saint-Just et le Mamba. On a commencé à faire des repas pour ceux qui ont été, après l'incendie, répartis dans les hôtels. Et par exemple, les jeunes qui ont été placés dans un foyer, les mineurs, ils ont commencé à venir à une quinzaine, à cuisiner tous les midis pour se faire leur propre repas. Et on a essayé d'aider au mieux les familles pendant un temps. Et moi, je suis arrivée plus à ce moment-là, quoi, à aider vraiment avec l'équipe de Saint-Just, ouvrir le lieu tous les midis, les aider à comprendre comment marcher la cuisine et du coup faire la gestion des dons comme je disais ouais c'est bien les noms mais il faut savoir gérer derrière et du coup des fois je restais 6 heures par jour à gérer les dons qui arrivaient aussi bien d'hygiène que d'alimentaire et les nouvelles équipes qui arrivaient, les nouveaux qui savaient pas comment marcher la cuisine etc. Et j'étais plus dans ce truc de gestion du lieu pour que ça se passe bien entre chaque personne qui reprend le lieu, qui connaît pas les clés etc. et gérer les dons et là de toute façon justement je sais que par exemple moi si je fais un appel à la fois aux dons alimentaires venir par exemple le mercredi nous soutenir quand on fait le café, le thé à prix libre, mais aussi de pouvoir par exemple il y a au moins 3 après-midi par semaine le lundi. Avant c'était tous les jours, là on va dire lundi, mercredi et vendredi après-midi il y a toujours du monde donc on peut amener des dons Et ce que j'avais dit que je relancerais moi, c'est le côté hygiène et couche pour les bébés, parce qu'effectivement, ça, il y en a toujours besoin, même s'il y a Massilia, Couche Système et d'autres réseaux. Nous, ça nous permet, quand on a des choses ici à la Darla Mifa, de pouvoir redonner à des familles. Et moi, je fais aussi le lien avec les familles roms. Des fois, je fais des colis alimentaires. Des fois, je donne à des mamies et des personnes âgées qui sont dans le quartier. Et plus on a de choses, et plus ça nous permet de répartir les dons entre tous les gens qui ont besoin, que ce soit dans le quartier ou ailleurs. Et du coup, n'hésitez pas à venir faire des dons, donner des coups de main. Il y a toujours des choses à faire, même si c'est la vaisselle. Et à venir aider la Marotte sans nom. Et alors, sans nom, moi, je dis, quelque part, c'est un peu mon idée, parce qu'à un moment, on était Marotte Belzins, puis comme on faisait beaucoup de secteurs, je dis, mais on n'a pas de nom, nous, et tout le monde fait beaucoup de pubs, et puis en fait, nous, on ne sait pas. Puis du coup, j'ai dit, bon, bah, alors, c'est la Marotte sans nom, et c'était une plaisanterie, et c'est resté, Marotte sans nom. Mais Belzins, Cours Julien, enfin voilà. Voilà, bonne journée, en espérant que, comme cette histoire de Covid qui nous pourrit la vie et qui est une dictature sanitaire de mon opinion, continue. Il faut être solidaire et comme je dis toujours, c'est le seul truc qui peut vaincre le virus du capitalisme et de l'égoïsme, c'est l'amour et la solidarité.
Merci pour moi.
Maintenant, on va écouter une prise de parole et une interview que tu as fait en 2016 avec Rachid, avec Farid, deux jeunes Algériens, un qui a été expulsé et l'autre qui est toujours là. C'est au café Prinder à Marseille, à Noailles, un des derniers cafés où effectivement qui gardait le cachet historique de Noailles, de cette Noailles-là où effectivement. Les Arméniens sont partis, les Algériens sont arrivés, où tu as tout cet héritage avec le fait à Chibania, des anciens travailleurs algériens, des anciens de la population algérienne de là-bas. Et tu as été, donc du coup, tu as pris en enregistré ces gens-là.
Le marché Noailles, en face, le café Prinder.
C'est le syndic du marché.
C'est les dents algériens. C'est bon, hein. C'est l'arrivage. Hein.
Allons, climat des bananes.
Allez, profitez. Allez, la qualité.
Allez, banane, bio climat des bananes. Allez. Donne, maman, donne. La bio magique, ça. Tu la manges, tu viens la magique. Pas vrai, maman. La clémentine aussi, Maroc. Un euro. Allez, one number one. One. Allez, on finit. Allez, la banane bio. Allez, qualité comparée avant d'acheter. Allez.
Maintenant, il est tenu par Pierrot, qui est là en train de servir. Et en même temps, la rue d'Aubin, Noailles, la rue du Musée, c'était le,
le fief du rail.
Moi, je me nomme Farid, j'ai grandi à la rue du Musée. Quand je suis né en France, quand je suis revenu d'Algérie, je suis allé en... J'avais deux ans, c'est mes parents qui m'ont ramené, ma mère, entre parenthèses, pour mon papa, il était là-bas. Maman, maintenant, est décédée, qu'elle repose en paix, l'Arhama. Et je suis revenu, je suis descendu, paraît-il, j'avais deux ans. Je ne me rappelle pas trop. Et je suis revenu, j'avais 17 ans. 17 ans, j'étais rodé là-bas. Je ne suis pas allé à l'école, mais je lis des livres que des gens qui ont le bac en Algérie ne le lisent pas. Il y a des gens qui me disaient le bac en Algérie, ils ne savent pas lire comme je lis moi. Sincèrement, sans me vanter. Après, pour revenir au rail, la rue du Musée, moi, je suis arrivé pour travailler. Mais je me suis mis dans un bar, mon grand frère m'a ramené, m'a posé dans le bar, m'a dit « tu peux boire la bière ». J'ai bu la bière, commencé à boire, à m'éclater, il me fallait des sous, je sortais, je ramassais des sous, je revenais, je buvais, j'en dansais, le groupe il venait. Dès qu'on avait des sous, on ramenait, il y en a qui ramenaient un groupe. Ma tante, elle était là, elle avait un bar, je ne la nomme pas, elle est décédée, qu'elle repose en paix. À la rue du Musée même, il y avait la cave à vin, il y avait des Français, il y avait des Arabes, il n'y avait pas de racisme. On jouait, on buvait, on s'amusait, on s'éclatait, celui qui n'avait pas où dormir, on le faisait dormir, celui qui n'avait pas à manger, on le faisait manger, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que là, on s'amusait, on s'éclatait. Et c'est comme ça qu'il y avait la rue Tubano et la rue du Musée. Ils se tiraient la bourre. Et la meilleure, c'était la rue du Musée, parce qu'il n'y avait pas de violence. Il y avait des familles au-dessus des bars qui habitaient, on respectait. À certaines heures, il fallait s'arrêter. Que la rue Tubano, c'était le white. Il y a eu même des meurtres. Mais là, ici, la rue du Musée, non. Jusqu'aux années 90, 2000, après, moi, j'ai quitté, je suis allé vers Genève, où j'ai connu la belle vie, les gens riches. Oui, la Suisse, c'est joli.
Moi, ce que je voulais savoir, je vous ai demandé, est-ce que vous avez connu des chanteurs de rail? Est-ce que vous avez l'ambiance des bars?
Oui, j'ai connu Chabandi, j'ai connu Mami, j'ai connu Khaled, qui est maintenant... Oui, j'ai connu Khaled.
Il paraît qu'ils vendaient des merguez.
Moi, je ne l'ai pas connu quand ils vendaient les merguez. Je l'ai connu chanter, toujours dans des cabarets, respecté. Il est parti à Paris, pourquoi? Parce qu'on lui a pris cinq patates. Une femme lui a pris cinq patates. Il a pris ses valises, il est parti à Paris. Il a eu la chance de rencontrer... comment il s'appelle, qui lui a fait la chanson Aïcha?
Khaled.
Non, pas Khaled. Oui, Khaled. Pas Balois, qui chante... Il y a... Enfin, un des chanteurs... Non, je crois que c'est Balavoine. Pas Balavoine, si... Il met au bout de la langue, bref, parce que je ne suis pas trop... Et avec cette chanson, il s'est relevé, on le voyait à la télé, il y en a qui se moquaient de lui, ici et ça. Moi, quand je l'ai vu à Paris... Je l'ai vu avec un 4x4, il avait deux gardes du corps et je l'ai salué, il m'a salué. C'est un mec très respectable, moi je le respecte, je l'aime bien. C'est lui qui a, après des vieux, c'est lui qui a sorti le rail ici à Marseille. Il y en a qui ont essayé de le doubler, ils n'ont pas réussi. Ils sont restés beaucoup, beaucoup, beaucoup derrière. Lui, il était sur l'autoroute et ils étaient sur la nationale encore. Ils n'ont pas encore rentré dans l'autoroute, il était lui. Il a assuré... Maintenant il a changé. Je le respecte, en même temps je le salue. D'accord? Et ceux qui écoutent le rail aussi, je les respecte.
Chapral avec tout ce qu'il a donné pour l'Algérie, pour tout le monde. Il a terminé mal, il est exilé au Maroc. Il a été vraiment malmené par, bien sûr, par le gouvernement algérien, par tout le monde. Voilà. Et moi, je lui tire chapeau. Khaled, c'est Khaled.
Pourquoi la rue d'Oban Hagda est devenue morte? Musée, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a encore de... y a encore de l'ambiance la nuit?
Il y a encore de l'ambiance, paraît-il, mais moi, je ne fréquente plus ici. C'est justement Djilali qui m'a rentré ici, dans ce quartier, où je viens passer, je prends ici un paquet de cigarettes. Avant, c'était mon quartier. J'ai grandi ici, mais après, comme il est devenu trop mélangé de partout, il y a trop de médicaments, il y a trop de ci, il y a trop de ça, on s'est retiré. Avec l'âge, tout ça. Moi, j'avais 20 ans, maintenant, j'en ai 55 bientôt. Donc, vous voyez, vous imaginez, je ne peux pas rester là. Si je reste là, il y en a qui croient que je fais encore ce que je faisais avant, que ça n'a rien à voir. J'ai fait plus que 20 ans de prison, c'est fini. Ah oui. J'ai fait...
Justement, la prison, comment c'est...
Il y a des moments qu'on n'oublie pas qui sont agréables, il y a des moments qui sont très violents qu'on n'oublie pas non plus. Il y a tout en prison. Et c'est les beaux maîtres, c'est connu dans le monde entier. J'ai là où j'ai grandi. Après, j'ai fait presque toutes les prisons de France. Et même Chandelon, c'est la prison à Genève, c'est la plus belle prison. C'est la plus belle prison, il y a des hommes et des femmes. Sérieusement. J'en ai vu un. Moi, je sortais, le juge m'a dit, vous portez plainte, parce que je me suis tapé la tête contre la vitre et j'ai dit, c'est le douanier. Après, il m'a dit, je vous relâche, vous portez pas plainte, ou alors je vous garde, mais vous portez plainte, vous aurez ce que vous aurez voulu. Mais après, faites attention, vous aurez affaire au douanier, parce que c'est un mensonge. Mais nous, on l'a pris en considération, votre mensonge. Ils sont corrects, les Suisses. Ils savent que c'est vrai, mais moi, j'ai menti. J'ai menti, ils savent que j'ai menti, mais c'est vrai. Parce qu'ils ne peuvent pas le démentir, ce que j'ai fait. Je me suis tapé la tête contre la vitre, sachant qu'ils allaient me tuer, croyant qu'ils allaient me tuer. La nuit. Ils m'ont attrapé avec de l'argent. Ils croyaient que je l'avais volé ou que je trafiquais. Mais moi, c'était mon argent. J'habitais à côté, Bellegarde, et j'allais à Genève pour boire un cours, à venir, faire des femmes, tout ça, machin, ainsi. Ça va, j'avais 35-40 ans, ça va. On est encore jeune, 40 ans. Alors, même maintenant, je suis encore jeune. D'ailleurs, je suis habillé comme les jeunes. Et puis, quand il m'a dit ça, le juge, j'ai dit, écoutez, moi, je n'ai jamais serré la main d'un juge, je vous serre la main. Moi, je sors demain. Il m'a dit, demain, vous êtes libre, je vous rends votre argent, mais vous avez un an d'interdiction de séjour en Suisse. C'est tout. Il m'a dit, ça vous va? J'ai dit, OK. Là, j'ai serré la main, je suis rentré, il savait que je partais demain, lendemain. Et mon collègue m'a dit, pourquoi t'es pas... Nana? J'ai dit, non, moi, je cherche pas l'argent, je cherche la liberté. Il n'y a pas mieux que la liberté. Il m'a dit, tu les attaques, tu prends des sous. J'ai dit, non, c'est la liberté. Bref, j'avais quelques points de suture à la tête, 2-3 points, c'est pas grave pour avoir la liberté. En même temps, je pouvais pas porter plainte que c'était du mensonge. C'était du pur mensonge. C'était juste pour avoir la sécurité que je me suis tapé la tête. J'avais peur comme... Et là, quand ils m'ont relâché, un mec, justement, pour parler que la prison est bien, est belle, un mec avec moi, il m'a dit, mais t'es con, tu devais pas sortir tout ça, la côte avec les femmes, elles t'ont déjà appelé, ils savaient que j'étais de Marseille, tout ça, ils ont su déjà un Marseillais. Et un noir, un black, il a insulté le surveillant qui nous accompagnait à la sortie. Il a insulté pour rester en prison. Pour vous dire, comme la prison en Suisse, ça s'appelle Chandelon. Comme elle est bien, ah ben même celui qui a pas de cigarette, il lui demande qu'est-ce qu'il fume comme cigarette, il lui ramène le matin son paquet de cigarettes. Vous me croyez? Marlboro, on lui a ramené ses Marlboro. Je l'ai vu de mes yeux. Et j'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles, la personne qui a insulté le chef qui nous a amené vers la sortie. Quand j'étais libérable, il y avait un mec avec moi libérable. Et j'ai dit, pour de bon, tu déconnes. Il m'a dit, il nique sa mère. Il a insulté, il lui a insulté sa mère. Et j'ai dit, chef, c'est pas grave, faites le sortir. Il m'a dit, rien que pour ma mère, je le garde. Il m'aurait pas insulté ma mère, il m'aurait traité de con ou d'enfoiré ou d'enculé. Parenthèse, je l'aurais laissé. Mais ma mère, elle lui a rien fait. Il restera là, mais au cachot. Au cachot. Et j'ai dit, mais pourquoi il a voulu rester là? Il m'a dit, parce qu'ici, vous avez vu comme c'est bien. En plus, il y a des femmes, si ça, non, ils sont mieux qu'à la maison. Donc, pour ça que je vous dis ça. Après ça, je l'ai vécu. Et les autres prisons, je ne vous raconte pas. Mais seulement, elle n'est pas aussi difficile qu'on en parle. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils leur donnent des cigarettes. Ils ont un petit budget. Il y a du travail. Il y a des insertions. Il y a des stages. J'ai appris pas mal de choses en prison. Franchement, j'ai même eu le brevet de secourisme. En Suisse, j'ai assisté à des accidents. J'ai été là, j'ai sauvé des gens. Il y en a à qui j'ai enlevé le couteau des reins, j'ai tiré le couteau. Il y en a que j'ai mis sur le côté, des accidents de voiture, tout ça que j'ai appris en prison. J'ai fait des stages. J'ai fait un stage aussi en prison. J'ai fait pas mal de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, il y en a beaucoup qui sont... Ça, parce que là, c'est les médicaments aussi. Pas par les surveillants, hein. Plus maintenant. Avant, peut-être, plus maintenant. Franchement, non. Non. Ceux qui vous ont dit ça, moi, je vous dis non. Moi, je vous dis que non. Là, c'est l'expérience qui parle. Le surveillant, c'est pour qu'il vous touche. Il vous touche à plusieurs, mais il faut que vous lui manquiez de respect. Comme il y en a qui leur crachent à la figure, vous crachez à la figure d'un surveillant, et il ouvre la porte, il vous donne à manger, c'est tout. Pardon, pas à vous, il donne à manger aux détenus. Et c'est un détenu qui sert, le surveillant, il ne fait pas de mal. Si on ne lui fait pas de mal, et encore, ils ne sont pas tous méchants, comme on le dit. Il y en a qui se font insulter, et ils ne font rien. Et il y en a qui plantent ici, maintenant, avec tout ce qui s'est passé, parce qu'il y en a qui plantent les gens. Avant, il y avait l'alcool, il y avait la bière en prison. Mais un mec, il a planté un surveillant. Ils ont arrêté à cause de ça, l'alcool. Il y avait de la bière, 14 bières par semaine. Les gens, ils s'amusaient, ils buvaient. Il n'y avait pas de bordel, il n'y avait rien.
Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre. Et pour le vent, être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour, tu passes la frontière. D'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain, qu'importe et qu'importe hier. Le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basse les lampes. La nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne. Mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence. Mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance et sur le toit même d'entendre tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte, le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose. C'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Lentement plier nos genoux. Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années, secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi, pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.
Je lance un appel aux autorités françaises et en particulier le préfet de Marseille pour m'aider. Je suis SDF. Je suis SDF, je suis dans les foyers et des fois on me donne pas une place au foyer, des fois je dorme dehors. Donc essayez de faire quelque chose pour moi. Je vous en supplie, je suis sage, gentil, je peux apporter mon expérience. Je peux faire une petite formation accélérée. Je suis spécialiste dans la sécurité industrielle et j'ai travaillé dans le pétrole et le gaz et je peux rajouter la Je peux rajouter ma modeste expérience. Et merci beaucoup et merci pour les gens de Marseille qui m'ont vraiment donné du courage.
Comme tu me passes le micro à moi, merci Edir. Moi c'est Farid, merci, je parlais tout à l'heure de prison, maintenant c'est pour parler de l'Algérie, je pense toujours à la famille là-bas, j'ai de la famille dans Salambé, les amis de Salambé, et la famille de Boulevard, rue des Écoles, Azdine Zakhouane, il travaille avec la police, et c'est quelqu'un de bien, c'est ma famille, c'est un poulet mais il est très gentil, il est sortable et tout, il vient de temps en temps nous voir, cette fois-ci je ne l'ai pas vu, il est venu, je ne l'ai pas vu, pour ça que je voulais lui passer un message, et à toute la famille, à toute la rue des Écoles, à Maman Rqia, à Saleh, à tout le monde, je vous embrasse, et à toutes les amis, à tous, à tous, j'embrasse tout le monde qui nous entend, qui nous écoute, et je vous souhaite à tous bon courage, et ceux qui sont malades, bon rétablissement, et ceux qui sont bien, bon, foncez, n'arrêtez pas, regardez pas derrière, allez de l'avant. Et merci, et ciao, ciao, merci de m'avoir entendu. Merci Djilali, c'est très gentil à toi.
Billahi ya hammam, wassal salami ila al-Jazair. وإلى أحبابي وأحبابي وناسي في مدينة تيارت. Je vous embrasse tous et prenez soin de mon pays. Prenez soin de mon pays. Il faut penser aux générations futures. Arrêtez cette anarchie et il faut penser au futur. Aujourd'hui c'est un autre jour. Ne trichez pas. Et aider la belle jeunesse. Je connais des gens qui ont 50 ans qui ne sont pas mariés. Je lance un appel aux faux bourgeois d'aider et aux voyous qui ont tout ramassé. Donc essayez d'être conscient, essayez d'avoir un principe. Il faut aider cette belle jeunesse. Si vous faites ça, ce beau geste, le bon Dieu va vous pardonner.
Cher Sidi Mimoul, on termine avec, bien sûr, lui. C'était Farid et Djilali. Ce reportage, cet entretien a été réalisé au Café Prinder.
Une série d'interviews que tu as réalisées donc, dans ce café avec Djilali et cet autre personnage. Hein.
Farid
et Djilali a été expulsé, donc du coup, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors qu'effectivement, il cherchait effectivement à trouver sa place ici. Mais il était âgé, hein, comme Harag. Il avait quand même 60 balais, hein, quand même. C'est, j'ai bien compris.
Il avait 63 ans.
Il avait 63 ans. Et comme quoi ?
Quand je l'ai connu, il avait 63 ans.
C'était en 2016.
Je l'ai connu, bon, disons 60 ans, oui, puisqu'il a dit 60 ans. Mmh. Mais il l'a expulsé à 63 ans.
Donc du coup, c'est ça qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'effectivement, tu sais maintenant que l'appareil d'État français, il expulse même des personnes âgées. Et donc du coup, il expulse effectivement aussi des gens qui sont les plus isolés économiquement et socialement. Mmh. C'était un ancien cadre, hein. Il nous expliquait que c'était un ancien cadre de l'Osonatrac et que finalement, il a fini par venir ici et s'est retrouvé expulsé. Et voilà. Quant à l'autre, eh ben, effectivement, il a quand même passé un peu tumultueux et il nous racontait un peu tous les détails de son existence, de ce qu'il a fait, de ce qu'il se posait et un peu ce patrimoine historique qui à travers lui tu as pu enregistrer de tout ce nom-là et de toute cette rue du musée de rue d'Aubagne qui fait ce qu'il y a dans les années 80, je fais là dans les années 97-98. On s'est installé à Marseille dans 97. Je me souviens très bien de à quoi ressemblait effectivement le Marseille, enfin le Noailles de cette époque. La population était très différente de celle d'aujourd'hui, qu'un ou plus le Harna. Et...
Malheureusement, il faut le dire, elle a presque été radicalisée parce que tous les bars qui existaient à l'époque, j'ai l'impression qu'ils ont eu des menaces.
Hein. Avant, les bars qu'il y avait là-bas, c'est pas tant les menaces que...
On ferme comme ça, il n'y a plus de rats, il y a plus de... c'est quelque chose de...
C'est la concurrence qui les a tués, c'est la gentrification qui a tué ces bars-là. C'est
plus la gentrification, comme tu dis.
Le bar Talhouariyat...
Ça a arrangé les...
Le bar Talhouariyat, par exemple, la rue d'Aubagne. Donc, c'est pour montrer, pour expliquer un peu à nos auditeurs. Bon, la Darlamifa, c'est rue d'Aubagne, voilà, en haut. Vous redescendez en rue d'Aubagne, après les bâtiments effondrés. Il y a une boutique qui fait... Il y a une boutique qui fait du tissu. Avant, c'était un bar qu'on appelle Bar Talhouariyat. Cheb Bilal, il traînait souvent. C'est un chanteur de raï algérien. Et du coup, ce qu'on savait, ce que j'ai plus ou moins tout le monde savait, c'est que le Bar Talhouariyat, c'était un bar où les propriétaires payaient en liquide, une fois par mois, leur loyer au noir. Quand il y a même des fonds de commerce au noir. La mairie, elle ne persécutait pas les fonds de commerce comme elle le fait aujourd'hui, avec tout un arsenal administratif. Et donc, du coup, effectivement... Il y avait cette permissivité.
Bah, il pouvait à tout moment être expulsé sans raison.
C'est ça, mais c'est ce qui s'est passé avec la gentrification. Après, eux, en tant que potentiel social, c'était clairement aussi des éléments réactionnaires. Faut pas déconner non plus, c'était pas des endroits sociaux, à part votre asso qui était dans le quartier, hein, même la vôtre.
L'école de cirque.
Ouais. L'école de cirque, à part votre asso qui était vraiment, qui faisait du fonds social, du travail social, c'était pas la même chose. Mais quand la pègre, hein, faut pas déconner, quand la pègre ou quand la prostitution, t'as Inch'Allah, la rue du musée, et la colère. Voilà, c'était un peu pour revenir sur ce quartier-là, l'histoire de ce quartier-là. Après, effectivement, tu nous as encore une fois enrichi d'un témoignage historique de la ville de Marseille. Parce que personne ne fait ce travail-là d'archivage de cette réalité-là marseillaise, de l'hypercentre.
بحرية انا هوبلا وتابو تعبنا الروم عويثة تسنى الشنش انا هوبلا وتابو تعبنا الروم
وهاوي بحرية انا هوبلا وتابو تعبنا الروم عويثة تسنى الشنش انا هوبلا وتابو تعبنا الروم
وهاوي بحرية انا على ديث الدو السرفيث الداد نساو تفروا ماسي وغرفوا
وهاوي بحري انا هبرا وتابو تعيد مروم هاوي تادا سناس جنجانا هبرا وزبو تعيد مروم
وهاوي تادا نساو صروا من خاف اللاضو هذا مشرق لم وجيد جانا شحال دا مطلو
وهاوي بحري انا هبلا وذابو تعيد مروم هاوي ذادا سنهاس جنجانا هبلا وذابو تعيد مروم
هاو جبذ الثيم ورار ذهن امتو غاش نوان شنو ثغذي زلان النيل يتاكن فودي غلان
وهاوي بحري انا هبلا وذابو تعيد مروم هاوي ذادا سنهاس جنجانا هبلا وذابو تعيد مروم
Et oui, c'est Cheikh Sidi Bimoul, il y a Al-Hou. Al-Hou, celui qui dessinait tout Alger. Alger de la Casbah jusqu'au port d'Alger, Hatta El Bab El Oued. Donc, il est 17h44 minutes. L'émission tire à sa fin. Il me reste qu'à vous dire à jeudi prochain. Et ciao, ciao, ciao. On va vous laisser avec Allez, بقى على خير. À jeudi.
الطير طير محلاه في سما الحوم وينادي سيادو ما نواسي لقاه سيادو ما نواسي لقاه سيادو ما نواسي لقاه بالحيلة يومي معادي نصبولو السبكة وصيدو وعدي وعلاش صيدو قولولي وعلاش بعد ما كان يطير ويحوم وين ما يزهالو القفص الضيق طيشو اوعدي وعلاش طيشو قولوا لي وعلاش لمسال عليه صار وحده يشبه الخيالو يبكي وينوح وحيد حتى عينيه دبالو حتى سهر الليل علمو وعدي وعلاش علمو عمرو ما يرتاح عمره ما يرتاح عمره ما يرتاح مرارقه وترجع ما يحلاله نصبوا له الشبكة وصيدوا وعدي وعلاش صيدوا قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم وين ما يزالوا القفص الضيق طيشوا وعدي وعلاش طيشوا قولوا لي وعلاش لمسال عليه لمسال عليه لمسال عليه صار وحده يشبه الخياله بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم وين ما يزال القفص الضيق طيشه اوعدي وعلاش طيشه قولوا لي وعلاش لمسال عليه لمسال عليه لمسال عليه صار وحده يشبه الخياله كان الوحش شربه اوعدوا على شربه لا قوة عنده لا قوة عنده لا قوة عنده باش يغدى ليهم في حاله نصبوا للشبكة وصيدوا اوعدوا على صيدوا قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم وين ما يزالوا صديق طيشه اوعدي وعلاش طيشه قولي وعلاش لمسال عليه لمسال عليه لمسال عليه صار وحده يشبه الخياله